Le débat du jour, Guillaume Nodin.
Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le débat du jour. Le Dakar s'achève demain en Arabie Saoudite. Le pays accueille en effet cette année sur son sol la première d'au moins 5 éditions du célèbre Rallye Raid. Cette organisation suit celle d'un championnat du monde de boxe des poids lourds, des supercoupes d'Italie et d'Espagne. C'est le reflet d'une volonté d'investir dans le sport réputé bon vecteur de soft power, comme on dit de nos jours. C'est ce qu'ont fait d'autres pays, comme le Qatar, voisin et rival honni du royaume saoudien, et qui va organiser le mondial de football en 2022, ou encore la Russie, qui a accueilli le précédent. Mais le sport est-il systématiquement un bon moyen d'influence? C'est la question du jour. Et pour en parler, deux invités sont avec nous en studio. Jean-Baptiste Guégan, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes enseignant, journaliste et auteur de « Géopolitique du sport » et « Une autre explication du monde », c'est chez Bréal. Et plus récemment, « Une histoire populaire du PSG » aux éditions Hugo Sport. Et Vincent Chaudel, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes économiste du sport et fondateur de l'Observatoire du sport business. L'Arabie Saoudite, c'est donc le dernier pays à se lancer sur ce créneau de l'influence et de la diplomatie par le sport avec de gros moyens. Pourquoi et dans quel but? Vincent Chaudel.
Pourquoi? Pour plusieurs raisons. Je pense que l'Arabie Saoudite a besoin de renouveler, de changer son image dans le monde. Et puis après, on a trop tendance à l'oublier. Il y a un match qui se joue dans la région entre Émirats et deux petits Émirats en termes de géographie, en termes de population bien plus petits que l'Arabie Saoudite ont pris de l'espace médiatique. Et je pense qu'il y a aussi une irritation de la part des Saoudiens et une volonté de reprendre la main. Alors que jusqu'ici, les Saoudiens ont été, on est quand même sur un pays de plus de 20 millions d'habitants, très auto-centré parce que ils avaient leurs propres activités, leurs propres championnats, leurs propres intérêts, et ils n'allaient pas sur ce terrain-là.
Jean-Baptiste Guégan, on va y aller directement puisque vous êtes aussi spécialiste de PSG. Est-ce qu'il y a un esprit de, c'est fait dans un esprit de concurrence avec le Qatar, pour le dire clairement?
Alors il y a une concurrence, mais il y a aussi une sorte de mépris des Saoudiens pour les Qataris, et justement ils irritent. C'est-à-dire que ce petit émirat qui était regardé finalement comme des lointains cousins peu fréquentables, aujourd'hui fait de l'ombre. Il y a une crise dans le Golfe depuis quasiment deux ans même. Et aujourd'hui, la réussite du PSG, la stratégie sportive du Qatar a réussi. Elle a inscrit littéralement le Qatar sur la carte. Et l'Arabie Saoudite a très bien compris ce qu'elle pouvait en retirer aussi. Et donc, elle joue finalement avec les mêmes armes. Et pour rentrer, elle a mis énormément d'argent sur la table.
Alors, est-ce que c'est pas parfois à double tranchant? Parce que rien que ce matin, j'ai entendu deux sujets sur deux radios françaises, l'un sur le bilan carbone du Dakar, l'autre sur le respect des droits de l'homme en Arabie Saoudite à l'occasion du Dakar. Est-ce que c'est une bonne idée pour l'Arabie Saoudite de vouloir améliorer son image avec une épreuve qui a fait quand même régulièrement polémique depuis son lancement, Vincent Chaudel?
Alors, je vais répondre sur le deuxième point, c'est-à-dire que on moque souvent le sport, mais pour autant, il y a un vrai sujet grâce aux événements sportifs pour faire bouger les lignes sur la notion du droit de l'homme. Alors, c'est jamais assez en matière de droit de l'homme, mais les Jeux de Pékin ont fait bouger les choses. Les Jeux ou la Coupe du Monde en Russie ont pu le faire également. Les choses bougent au Qatar.
Les Jeux de Pékin ont vraiment fait bouger les choses?
Oui, mais...
Le
sujet, c'est on veut regarder les choses avec nos yeux à nous d'occidentaux. Moi, je pense que si demain l'Arabie Saoudite voulait accueillir, je sais pas moi, des Jeux Olympiques ou des compétitions mixtes, ça ferait forcément bouger les lignes au niveau de la place de la femme dans la société saoudienne. Donc oui, le sport peut faire ça, mais on n'est pas sur des générations spontanées. C'est-à-dire que moi, il m'est régulièrement arrivé de parler du Qatar dans le passé, voilà, où on oublie trop souvent, par exemple, que la Révolution française, il nous a fallu un certain temps avant d'arriver à une démocratie entre guillemets pure et parfaite. Je mets beaucoup de guillemets là-dessus. Il y a d'autres pays qui mettent un certain temps à aller vers ce que on estime nous être un idéal. Mais c'est une autre façon de voir la société, et je sais pas nécessairement qui on est pour être détenteur de la vérité à ce point.
Jean-Baptiste Guégan, ça permet du progrès.
Alors, Très honnêtement, le sport permet pas de changer la nature d'un État, notamment quand c'est un régime autoritaire. Par contre, et là, je suis d'accord avec ce que disait Vincent Chaudel, quand on interroge les spécialistes de la Russie, et moi j'ai écrit un livre sur la question à l'occasion de la Coupe du Monde 2018, il y a eu un appel d'air. Pendant un mois, le temps de la compétition, les Russes ont découvert ce qu'était la liberté de se retrouver librement dans la rue et de boire dans la rue. En rencontrant des gens qu'ils n'avaient jamais rencontrés, puisque la Russie n'était pas un pays touristiquement attractif. Il était derrière l'Autriche à ce moment-là, en termes de fréquentation. Et ce qu'on a pu voir, c'est que ça a laissé une trace dans la jeunesse russe. Et pour ceux qui font fréquemment les allers-retours, je pense notamment à Lucas Aubin, qui est le spécialiste de la géopolitique du sport russe avec Sylvain Dufraisse, il vous dit que ça va laisser quelque chose. Cette graine, elle est plantée. Et on ne sait pas dans combien de temps elle germera.
Pour réussir, est-ce qu'il faut avoir une stratégie et des objectifs bien définis pour réussir dans cette diplomatie sportive ? Est-ce que investir pour investir, c'est une bonne idée ? Voilà, à fond perdu. Qu'est-ce que vous en pensez, Vincent Chaudel ? Alors,
je ne pense pas que ce soit une question de fond perdu. Bien souvent, on l'a vu aussi par rapport à Paris 2024, le débat est de dire est-ce que accueillir des jeux, c'est rentable ? Moi, ma position, c'est de dire que l'argent des jeux ou un événement comme cela, ça fait gagner du temps. Si on prend le cas de Paris, si je reviens juste sur Paris, oui, les transports du Grand Paris, avec ou sans Paris 2024, on les aurait. Oui, mais on va les avoir plus vite. Et donc, c'est ce sujet-là. C'est-à-dire que le sport, les grands événements agissent sur le temps de transformation des sociétés et des environnements. C'est cela. Et donc, l'Arabie Saoudite, si on revient sur l'Arabie Saoudite, a au niveau économique, une marge assez confortable et elle peut se permettre effectivement d'investir. Mais aussi riches soient les Saoudiens, pour autant, il y a un calendrier sportif et ils ne peuvent pas tous payer du jour au lendemain. C'est-à-dire que voilà, la Coupe du Monde 2026, on sait déjà qu'elle est aux États-Unis, Mexique et Canada et que s'ils la veulent, bah, il faudra attendre un tour. Et donc là, bah, ils achètent ce qui reste sur le marché.
Jean-Baptiste Guégan, on reproche beaucoup et depuis des années au Qatar l'organisation du Mondial 2022 pour des raisons à la fois sociales avec la construction des stades et environnementales avec la climatisation de ces mêmes stades. Est-ce qu'une épreuve de prestige comme ça peut se retourner contre son organisateur ?
Alors, c'est le tout problème du soft power hein, qui vit par le soft power peut aussi perdre par lui, c'est-à-dire que vous acceptez d'accueillir le monde chez vous et forcément, si vous n'avez pas fait le ménage, ça se voit. Et même si vous le faites, je suis un peu trivial, mais ça se voit quand même. Et tout l'intérêt justement de ces épreuves-là, c'est qu'aujourd'hui, depuis Sochi en gros, des bataillons de journalistes débarquent sur votre sol et fouillent. Et trouvent. Donc, ça rejaillit pas forcément sur la société nationale, mais ça l'influence finalement de l'extérieur. Et puis pour les opinions comme l'opinion française ou les opinions européennes, on voit la réalité de ce qu'est un régime autoritaire et aussi la réalité de ce qu'est un pays. Alors parfois ça gagne, hein, ça donne envie d'aller visiter la Russie ou d'aller visiter l'Arabie Saoudite. Parfois ça perd et peut-être que le Qatar va montrer un autre visage.
Le Qatar justement, il a cette stratégie d'investissement dans le sport depuis de nombreuses années hein, et donc de l'expérience. Est-ce que la stratégie d'investissement du pays a évolué ? Est-ce qu'il y a des erreurs qui ont été faites, Vincent Chaudel ?
Oui, évidemment qu'il doit y avoir des erreurs, mais juste pour se rendre compte, je voudrais pas dire de bêtises, mais il me semble l'avoir vu passer, entre 2010 et 2018, le PIB, enfin la part du tourisme dans le PIB a été multipliée par 10, je crois, ou quelque chose du genre, pour le Qatar. Ça veut dire, c'est pas grâce au PSG, on peut pas réduire cela aussi, mais c'est-à-dire qu'on est sur un État qui n'existait pas sur la carte du monde, qui, grâce à des événements sportifs, à sa stratégie d'existence sur l'écosystème par le sport, s'est fait une place. Et on est capable aujourd'hui de le placer sur la carte. Alors ça, ça a un prix. Évidemment que ça a un prix. Mais comme n'importe quelle agence qui voudrait ou entreprise qui voudrait exister, elle va faire des plans médias, elle va exister. Donc le Qatar, est-ce que ça a changé beaucoup de choses ? Oui. C'est-à-dire que pour se développer, pour développer son élite sportive, ben ils ont mis les gamins au sport, des garçons et des filles. Moi, je sais que tous les ans, il y a eu l'assemblée générale du sport scolaire qui s'est tenue il y a quelques années à Doha. Eh bien, il y avait la journée du sport scolaire. Alors, nous, on est sur une organisation mixte. On a des petits garçons et des petites filles qui, à l'école, pratiquent ensemble. Là, eux, c'est pas nécessairement le cas, mais les garçons et les filles pratiquent du sport. Et ça, c'est intéressant. La place de la femme dans la société qatarie depuis 10 ou 15 ans bouge. Alors, encore une fois, ça bouge certainement pas aussi vite qu'on souhaiterait et que ce serait souhaitable. Mais Les choses bougent.
Je reviens sur l'évolution de la stratégie d'investissement du Qatar et sur les erreurs éventuelles qui auraient pu être faites. Je vais vous en suggérer une, Jean-Baptiste Guégan. Acheter des sportifs en leur donnant la nationalité, voire des équipes nationales entières, ça s'est fait au handball notamment. Il y a eu une équipe du Qatar qui a surgi de nulle part il y a quelques années. C'est une stratégie qui a été abandonnée.
Alors, c'est une stratégie qui a été abandonnée pour plusieurs raisons. La première, c'est que si les fédérations internationales en face sont trop faibles pour faire respecter des règles, un acteur en face a tout intérêt derrière à en jouer. Bon, le Qatar l'a fait, mais ça n'a pas été le seul. En France, on a naturalisé énormément de sportifs et on a oublié de le reconnaître aussi. Bon, mais en dehors de ça, ce qui est intéressant,
c'est vrai, il faut balayer devant sa porte, absolument.
Oui, exactement. Mais ce qui se passe avec les États-Unis, avec la France, on trouve ça normal et on fête la capacité d'intégration de la société française ou des sociétés anglo-saxonnes, en oubliant que les Qatariens vont avoir finalement les mêmes recettes. Bon, mais en dehors de ça, ce qui est intéressant, c'est que oui, il y a des erreurs qui ont pu être faites. Oui, il y a des stratégies qui parfois sont contraires à l'éthique et à la morale, mais c'est aussi à la gouvernance du sport d'évoluer. Et l'acteur qui a les moyens, qui est capable de jouer avec, en a aussi tiré profit. On a ouvert cette société, et là je suis d'accord une nouvelle fois avec Vincent, c'est-à-dire que on est vraiment dans une logique où le sport va faire bouger les lignes sur les questions de mixité, parce que les règlements internationaux l'imposent. Et puis quand vous avez des caméras qui sont là pour filmer les événements, bah vous êtes obligé d'ouvrir les stades. Alors les Qatariens ont été obligés de le faire, par exemple dans la précipitation avec les jeux avec les championnats du monde d'athlétisme à Doha. Et puis il y a d'autres secteurs qui évoluent. Les mentalités évoluent moins vite, mais ça bouge.
Vincent Chaudel, vous vouliez réagir là-dessus ?
Oui, parce que au niveau des erreurs, par exemple, y a un vrai sujet et nous on le voit à Paris avec la version QSI et du PSG. Quand vous avez beaucoup d'argent sur quel que soit le sujet, là, malheureusement vous êtes souvent impatient. Et en matière de sport, il y a un sujet qui est l'expérience. Ça prend du temps d'être performant. Alors, le PSG a fait des erreurs. Mais aujourd'hui, ils ont appris de leurs erreurs aussi. Ils ont, en même temps, parallèlement à cela, ils ont construit. Si on regarde le PSG avant QSI et aujourd'hui...
La valorisation, elle est incroyable.
La valorisation, la marque, mais aussi les infrastructures.
Le centre d'entraînement qui est en train de sortir de terre. Oui.
Exactement. Donc, ils ont... à la fois regarder ce qui se faisait et quelle était la bonne référence, et ils ont investi dedans. Et puis à un moment donné, ils ont été peut-être trop impatients sur certains sujets à vouloir gagner la Coupe d'Europe tout de suite. Mais on se rend compte que ils apprennent. Non, mais c'est une réalité. C'est-à-dire que ce club, si on revient sur ce club, c'est le plus jeune des grands clubs.
Il a 50 ans, pas tout à fait. Hein.
1970.
Exactement. C'est ça, la belle
c'est
année.
C'est ce qu'il y avait écrit sur le maillot, absolument. Autre pays qui s'est lancé là-dedans, la Russie. Quel est le but de Vladimir Poutine avec ça, Jean-Baptiste Guégan ?
Alors, le but, il est multiple. La première chose, c'est d'abord développer une puissance touristique en Russie. C'est-à-dire faire rentrer des devises et accroître finalement l'attractivité de la Russie en échappant aux sanctions internationales. Un touriste, vous ne le bloquez pas. Bon, donc la première visée, elle est économique. La deuxième, c'est aussi de changer l'image de la Russie, là encore, pour la rendre plus attractive pour les touristes, mais aussi pour les investisseurs internationaux. L'image qu'on avait quand on pensait à la Russie avant Sochi et avant la Coupe du Monde, c'était celle des années 90 et de la décennie perdue. C'est-à-dire cette décennie où on avait l'impression que tous les Russes mouraient de faim. Bah aujourd'hui, les images, elles ont changé. On a vu des Russes qui souriaient. On a vu des villes qu'on ne connaissait pas. Et c'est pour ça que ces villes ont été choisies. Samara et d'autres. Et on a vu une Russie presque tournée vers le monde, capable...
Ville charmante, d'après tous les envoyés spéciaux qui y sont allés, absolument.
Voilà. Et l'autre intérêt pour Vladimir Poutine, ça a été d'utiliser le sport comme un moyen, justement, d'accélérer l'aménagement du territoire en revenant sur des programmes, finalement, qui étaient gelés depuis 20 ans. Et aujourd'hui, le sport est un accélérateur de projets, et on le voit à Paris, mais on le voit partout ailleurs. Le Brésil s'en est servi. Alors parfois, c'est à fond perdu, parfois il y a de la corruption, évidemment, mais vous avez aussi de gigantesques projets qui gagnent 20 ans.
Vincent Chaudel.
Avec les JO, il a désenclavé Sochi. Comme nous, on avait désenclavé avec les Jeux en 92. Donc voilà... Il y a un vrai sujet par rapport à cela. Moi, je pense aussi que, comme pour Pékin, la stratégie de la Russie, il y a aussi une stratégie liée à la politique interne.
Complètement.
Intérieure. C'est-à-dire que de travailler sur la fierté du peuple russe, sur...
Le virilisme russe. Exactement. L'homme qui représente l'État, c'est Vladimir Poutine, et il s'impose.
Et quand on parlait tout à l'heure de ce soft power qui peut se retourner, en l'occurrence, dans le cas de la Russie, le sujet du dopage et l'exclusion de la Russie de toute compétition, pour moi, est le revers de la médaille pour le moment, parce que là, pour le coup, et je pense qu'il faut qu'on fasse attention, parce que là, on est en train d'aller sur un terrain de la vexation du peuple russe. Et là, on dépasse carrément le sujet du sport.
À la différence de l'Arabie Saoudite et du Qatar, et sans leur faire insulte, la Russie a une longue et riche histoire sportive. Est-ce que ça change quelque chose dans la façon de faire, dans les objectifs, dans la stratégie, Jean-Baptiste Guégan?
Bah, déjà, ils sont capables de conduire et de mener des politiques sportives. Alors, parfois, avec des raccourcis, hein, c'est toute la logique du dopage. Il y a une culture de l'accueil, de l'organisation et de la pratique sportive. Et puis, vous avez un public qui suit, avec des athlètes qui représentent des écoles du sport russe, qui gagnent, et pas forcément avec des pratiques qui sont gênantes.
Vincent Chaudel, là-dessus ?
Je pense que c'est exactement... Enfin, ce point-là, c'est une des limites de la stratégie de développement de l'image des pays du Golfe et l'Arabie Saoudite au passage, par le sport. C'est-à-dire qu'il n'y a pas nécessairement le vivier local pour sortir des talents locaux, il n'y a pas nécessairement le potentiel local pour remplir des stades.
La culture sportive aussi.
Et il n'y a pas nécessairement cette culture sportive. Donc, accueillir des événements majeurs, des Grands Prix de Formule 1, etc., il y a un savoir-faire parce qu'on peut investir dans l'infrastructure, mais là, après, il peut y avoir cette limite-là.
Il y a un autre aspect, c'est que la Russie est très présente dans les instances internationales, dans les fédérations sportives. Ça aussi, ça aide pour être influent, tout simplement.
Alors, effectivement, le sport peut être un levier d'influence sur la scène géopolitique globale. Et à l'intérieur, quand vous voulez avoir un événement, il faut être capable de remplir les dossiers et de se faire apprécier. Forcément, le rapport de force joue pour les pays historiquement présents dans le sport. C'est le cas de la Russie.
C'est ce que la France avait voulu faire après l'échec pour les Jeux Olympiques de 2012. On avait expliqué, il faut prendre la tête de fédération internationale.
C'est clair.
C'est ce qu'elle a essayé de faire. En tout cas.
C'est clair, mais on a oublié de soutenir quelques personnes, comme Michel Platini ou par exemple. Mais pour revenir sur ce point-là, oui, l'histoire de la Russie, sa capacité à mettre des Russes aux têtes des fédérations est un avantage. Les pays du Golfe, eux, utilisent leur pouvoir économique et sponsorisent des grands événements, ce qui leur permet aussi de gagner en influence. Donc l'influence, on peut, il y a différents canaux pour jouer de l'influence.
Au final, ça rapporte quoi le sport au plan de l'influence ? Est-ce que c'est nouer des contacts, faire du réseau, du business, organiser un tournoi de tennis, inviter pas mal de VIP, est-ce que c'est quelque part, est-ce que c'est pas acheter sa place à table, Jean-Baptiste Guégan ? C'est ça l'idée ?
Alors, d'abord, ça permet de confirmer qu'on a sa place à table.
Oui.
Ensuite, ça permet d'aller à table et éventuellement de dîner avec les autres. Et ça, c'est important. C'est aujourd'hui, sur la scène internationale, si vous n'existez pas et si vous n'êtes pas reconnu par les autres, vous n'êtes rien. Et ça se traduit économiquement sur le niveau de développement de votre pays.
Oui, Vincent Chaudel, là-dessus, oui. c'est je veux m'en rendre serviette, je fais partie de la famille, quoi. C'est l'idée.
Oui, c'est ça l'idée, mais nous, on se rend pas compte, on est membre de l'ONU, du Conseil de sécurité et autres, quand vous y êtes pas. Et que vous prenez n'importe quel pays, vous avez les mêmes enjeux, vous avez une population, vous devez développer votre économie, vous voulez faire du tourisme. Tous les pays ont à peu près les mêmes enjeux, sauf qu'ils n'ont pas tous le même levier. Donc il est normal que d'autres pays qui veulent exister utilisent les leviers qu'ils peuvent. Certains c'est la performance, d'autres c'est le pouvoir économique, d'autres c'est l'influence. En tout cas, ils veulent exister et on peut pas leur reprocher.
J'ai une question très rapidement, et je vous la pose à vous qui êtes économiste, Vincent Chaudel, et vous avez commencé à y répondre. Est-ce que c'est économiquement rentable ?
Ça dépend quel est l'indicateur. Si on veut gagner de l'argent, si c'est ça l'indicateur, je ne suis pas sûr. Si on veut gagner du temps, je pense que oui. Si on veut gagner de l'influence, ça a tendance à marcher
quand même. À court terme, non. À moyen et long terme, je pense que oui.
Merci Jean-Baptiste Guégan, merci Vincent Chaudel, merci d'avoir participé à cette émission, merci à toute l'équipe du débat du jour, Florence Ponce à la coordination, Charles Mamère à la documentation et à la réalisation aujourd'hui et Fabrice Violet. Vous pouvez nous retrouver, nous réécouter, nous podcaster sur RFI.fr et sur nos applications mobiles comme RFI Pure Radio rubrique émission. Vous pouvez aussi participer au débat sur les réseaux sociaux. Le prochain débat c'est lundi, même heure, même endroit. Demain, vous avez rendez-vous avec François Bernard pour les dessous de l'Infox. Bonjour chez vous. Appelez-moi.